Ignacio de Loyola ou la naissance d'une vocation de paix, vous allez pouvoir suivre la seconde partie d'une conférence de l'historienne de l'Espagne, Béatrice Leroy, qui après avoir évoqué le contexte politique et religieux de l'Espagne au XVIe siècle, se concentrera sur la vie de Saint Ignace. Nous écoutons Béatrice Leroy.
Voilà un très large tableau politique et religieux, avec des minorités, avec des concessions, avec des avances du christianisme, mais également des échecs, en tout cas des solidités chrétiennes, je dirais, le pèlerinage, la vocation de beaucoup pour aller en pèlerinage à Jérusalem, à Rome, sur les tombeaux du Christ à Jérusalem, à Rome des apôtres et des saints, à Santiago, chez donc Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, vous voyez, donc, des grandes solidités. Mais également, une armature chrétienne partout que l'on a vu à l'œuvre pour la péninsule ibérique, les gros monastères bénédictins et cisterciens qui mettent en valeur la terre et qui sont essentiels pour la vie chrétienne, la vie sociale et la vie politique. De très gros évêchés et archevêchés qui tiennent les grandes villes et qui sont environnés de chanoines. Très intéressants, les chanoines. Les chanoines réguliers qui sont des prêtres, qui ont une activité pastorale dans les paroisses, qui aident dans la cathédrale à laquelle ils sont attachés l'évêque dans son ministère, mais qui forment également communauté enfermés dans un cloître, autour d'un cloître, dont ils sortent pour la prédication des paroisses qui leur sont confiées, mais c'est leur lieu de repli, c'est leur lieu de spiritualité, le cloître, les bâtiments épiscopaux, avec un côté toujours qui est réservé aux chanoines à côté du quartier réservé à l'évêque, donc chanoine, et ceci depuis au moins le 9e siècle, si ce n'est même le 8e siècle, Crodegang, qui était évêque de Metz, a fondé l'ordre des chanoines réguliers. Crodegang, qui est de la famille de Pépin le Bref, donc cousin de Charlemagne, et Charlemagne a émis une série de capitulaires pour structurer les chanoines réguliers qui donc structurent aussi la vie dans les cathédrales et dans la vie des paroisses. Des chanoines, valeurs chrétiennes, des valeurs qui sont de part et d'autre des frontières, par-delà les frontières, et qui peuvent donner alors de très fortes personnalités et surtout des éléments de réflexion, des réflexions mystiques, réflexions spirituelles, réflexions de théologiens. Et parmi les plus intéressants nouveaux sont des hommes qui sont des pays du nord de l'Europe, de l'actuelle Belgique, enfin des Pays-Bas, l'actuelle Belgique, l'actuel ensemble néerlandais, ou alors les régions de Bavière, de Thuringe, des marges de l'Allemagne, où se trouvent alors des communautés, en particulier de cisterciens, de dominicains et de chanoines qui vont donner Maître Eckhart, donc fin XIIIe siècle, début du XIVe siècle, Tauler, Suso, de très grands intellectuels qui sont des ecclésiastiques, en général moines ou chanoines, et qui écrivent et qui réfléchissent et qui sont d'une très grande spiritualité. Et puis, à la fin du XIVe et tout au long du XVe siècle, de très grands noms, Ruysbroeck, que l'on a surnommé l'admirable Ruysbroeck, qui est du village de Ruysbroeck, qui se trouve dans la forêt de Soignes, en Belgique, et Ruysbroeck est lui-même l'un des chanoines de Sainte-Gudule de Bruxelles, pour vous situer la le centre politique et géographique, vous voyez, un Belge, si vous voulez, Brabançon, donc, de ces territoires. Et puis, d'autres encore, et qui écrivent des livres, et qui surtout ont l'idée qu'il faut enseigner, former la jeunesse, chanoine ou membre d'une communauté monastique, qui ne reste pas dans leur cloître. Il faut former dans des collèges où l'on attire toute la jeunesse, futurs collègues ecclésiastiques ou les autres aussi, tous ceux qui veulent une formation, qui resteront dans l'état laïque s'ils en ont envie, selon leur situation, et qui sont formés dans ces collèges. Des collèges très nouveaux, avec des classes à niveau. Jusque-là, tout au long de l'époque médiévale, il y avait une sorte de classe unique dans les collèges et dans ce qui va devenir les universités. On a des classes à niveau selon les progrès de l'élève que l'on éduque en formant et en le surveillant de très près depuis l'enfance jusqu'à sa vie adulte où il peut choisir donc soit d'entrer dans le clergé, soit de mener une vie de laïque tout en gardant cette réflexion mystique avec une mystique intérieure, avec une mystique très personnelle qui est plutôt original, très original même, prenant un superlatif dans ces territoires. Ils écrivent des livres et surtout aussi, ils recopient les livres de Saint-Augustin, de l'Antiquité aussi, de la philosophie gréco-latine. Ils les recopient à la main et ils les vendent à très petit prix pour tous ceux qui veulent lire. Et c'est ainsi que la plupart de leurs livres, qui sont des livres de très grande valeur, qui sont ou les copies de l'Antiquité ou de leur œuvre elle-même, donc passent les frontières, vendus de l'un à l'autre, prêtés de l'un à l'autre, lus de l'un à l'autre et recommandés. Et c'est ainsi que Ignace, le voilà, je le retrouve, Ignace de Loyola, qui est sur son lit de douleur depuis 1521, alors qu'il a 30 ans et que jusqu'alors il était un jeune chevalier aux ordres du roi de Castille, Ignace, qui ne peut plus marcher ou très mal, ou alors de façon très accentuée, lit beaucoup, en particulier Flos Sanctorum, nous disons maintenant la légende dorée, qui est une sorte de manuel de vie de tous les saints, qui est de Jacques de Voragine du XIIIe siècle, c'était un Italien, et ce qui est beaucoup plus nouveau, car la légende dorée est lue un petit peu dans tous les pays et dans tous les milieux, mais la grande nouveauté, c'est la Vita Christi, la vie du Christ, écrit en latin, bien sûr, par Joachim de Saxe, qui est un chanoine originaire de Strasbourg, car Strasbourg relève de l'Empire. C'est dans les territoires, évidemment, qui ne seront rattachés à la France qu'au moment de Louis XIV. Alors, ne faisons pas l'erreur historique. Donc, le Joachim de Saxe, qui écrit « La vie du Christ ». Et ce livre, La Vita Christi, est très très lu dans tous les milieux. C'est un livre de réflexion mystique et cela enthousiasme donc Ignace qui commence à dire qu'il a été éduqué par Dieu lui-même comme un maître d'école faisant attention à son élève. C'est tout l'esprit de cette nouvelle éducation dans ces milieux du Nord, et qu'il a été adoubé par Dieu, donc comme le chevalier au service de son Seigneur et Maître. Dans les livres également que l'on traduit et que l'on propage dans l'ensemble de l'Occident, et en particulier aussi dans les mains d'Ignace, l'imitation de Jésus-Christ, qui est de Thomas de Campen, qui est un chanoine des Pays-Bas, Campen, donc de Zwolle, qui se trouve dans les Pays-Bas, et qui est là aussi un livre qui a traversé les siècles. Ça s'offrait encore il y a quelques 30 ans, 50 ans, en livre de communion solennelle pour les jeunes âmes de 12 ans qui avaient besoin de se former à l'imitation de Jésus-Christ. Vous voyez, donc, qui traverse, je dis bien, les siècles et qui enchante aussi, comme la Vita Christi, comme les autres. Alors, ce sont des livres qui arrivent en latin et qu'il faut traduire. Et toujours donc sur son lit de douleur, mais dès qu'il peut marcher, il va dans les centres d'enseignement. Ignace décide de se former aux lettres chrétiennes, et d'abord au latin, puis au grec, puis très vite il va demander, et son entourage comme lui, donc un éveil aux autres langues. Déjà un espagnol que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la conquête de Majorque avait demandé la formation aux langues vivantes, c'est Raymond Lull, qui est il est tertiaire de l'ordre de Saint-François. Il n'a jamais eu la vie sacerdotale entière, mais tertiaire de Saint-François. Raymond Lull, né à Majorque, qui a été formé depuis bébé, il a tété un lait arabe, donc formé à l'arabe, qui décide de demander à tous ceux qui veulent être missionnaires vers les pays arabes, vers les pays méditerranéens, vers les marges de l'Asie, d'apprendre l'arabe et d'apprendre l'hébreu, parce qu'on a toujours besoin aussi des traducteurs juifs, et ce sont des langues qui pourraient être assez voisines. Ceci est authentifié au concile de Vienne de France, Vienne de la vallée du Rhône. En 1311, le pape fait admettre donc dans tous les collèges, dans tous les couvents, dominicains et franciscains d'abord, les carmes et les augustins s'ils le veulent, mais aussi dans tous les centres de propagation missionnaire, en particulier à Kaffa, qui se trouve en Crimée, ou sur les marges des actuels pays de Syrie et d'Irak, où l'on forme dans des collèges de formation de missionnaires, il faut leur apprendre d'abord le maniement de l'arabe, de l'hébreu, du copte, de l'araméen, qui leur permettront d'évangéliser les populations. Les populations, on ne va pas les évangéliser en latin, évidemment, on peut les former peu à peu, les plus frottés que l'on veut au latin, mais la prédication populaire doit se faire dans la langue du peuple, voilà, pour la formation des jeunes. Et c'est ainsi qu'à partir de 1521-1522, d'ailleurs Ignace a une trentaine d'années, il décide avec des amis qui sont espagnols, qui sont navarrais, qui sont castillans, qui peuvent donc l'aider dans ses rapports et de se former dans les centres universitaires d'abord. François-Xavier, qui est navarrais, la Navarre est donc conquise par la Castille, on n'y revient pas, ou va l'être complètement. Les navarrais sont donc voués à une autre domination, et il ne reste désormais que les navarrais du Nord, c'est-à-dire de culture française ou néo-française en Aquitaine, etc., peu importe, n'y revenons pas. François-Xavier va dès 1530 à Paris, et François-Xavier a été ordonné prêtre dès 1532, donc bien avant Ignace de Loyola. Il prépare en quelque sorte les voies de l'installation à Paris de Ignace, qui vient avec Lainez, Salmerone et quelques autres, Bobadilla par exemple, surtout donc des Castillans de son entourage ou qu'il avait connus. Et c'est ainsi que, ayant tâté d'abord de l'université de Alcalá de Henares, qui est une fondation de Cisneros, qui a été un autre très grand cardinal et archevêque au service de Isabelle de Castille, donc qui lui-même d'ailleurs était mystique et qui aimait la réflexion nouvelle de théologie mystique et de pénétration de personnel de la vie en Dieu. C'est ainsi que il a fondé l'université de Alcalá, la Complutense, puisque c'était Complutum, la ville latine, qui a gardé son nom intellectuel, si vous voulez, et il y fait éditer la Bible polyglotte, qui est sa très grande réussite, car maintenant on édite évidemment l'imprimerie et l'édition des livres est une facilité, beaucoup plus que la rédaction et l'écriture à main levée. Et c'est ainsi que cette Bible polyglotte, qui est gardée d'abord à Alcalá, puis dans tous les centres espagnols, se trouve dans l'ensemble des possessions qui vont être celui des maîtres espagnols. Le petit-fils des rois catholiques, Charles, qui est le fils de Jeanne, leur fille, et de Philippe de Habsbourg, qui est donc des pays d'Autriche. Charles naît à Gand en 1500. Il est l'héritier de ses grands-parents, car sa mère Jeanne n'a pas tout à fait sa tête. Enfin, on va l'appeler Jeanne la Folle. C'est peut-être un peu exagéré, mais il est considéré qu'elle n'est pas capable de gouverner un très grand pays comme la péninsule ibérique. Mais elle aurait l'héritage. Les femmes peuvent parfaitement, voyez Isabelle et bien d'autres avant elle, régner dans les pays ibériques, dans l'Espagne, donc qui ne reconnaît pas ce que l'on appelle la loi saunique en France, qui éloigne les femmes. Donc les femmes du gouvernement politique. Et c'est ainsi que Charles arrive en Espagne en 1517, alors que meurt Cisneros, et que péniblement au début, mais très vite, il prend le gouvernement des ensembles espagnols et il se présente en très grand conquérant, luttant très bien dans les possessions italiennes qui sont de la couronne d'Aragon, car le roi Alphonse III avait conquis le royaume de Naples en 1443, et c'est ainsi que les Espagnols aragonais gouvernent à Naples, par exemple, ainsi que dans plusieurs autres principautés, mais aussi en Allemagne, car Charles Quint désire absolument la fin du protestantisme. Il remporte la bataille de Mühlberg, qui a été illustrée dans un superbe tableau de Charles Quint à cheval par le Titien. Mais il va devoir lutter toute sa vie en Allemagne contre les noyaux allemands, contre les noyaux protestants, pardon. Finalement, il préfère s'installer à la fin de sa vie. Il est malade, il a la goutte et il est diabétique. En 1555, il abandonne les régions allemandes en donnant le futur titre d'empereur, mais lui-même ne va quitter son titre d'empereur qu'en 1557, donc quelques mois avant sa mort, à son frère Ferdinand, et il se retire chez des chanoines très intéressants qui se trouvent en Castille, dans l'ensemble castillan, qui sont les Hiéronymites, ordre purement espagnol du début du XIVe siècle, qui d'abord vénèrent une statue miraculeuse de la Sainte Vierge à Guadalupe, qui se trouve en Estramadour, entre Trujillo et Tolède, dans les alentours de Plasencia, donc Guadalupe, et c'est ainsi que les Hiéronymites ou les frères chanoines de Saint Jérôme, mais enfin on lui dit plutôt les hiéronymites, forment donc là aussi, avec des collèges d'enseignement et des centres de réflexion, et une vie de tradition, de prédication en paroisse, mais dans des grands monastères et grands centres de chanoines où ils peuvent se replier, voilà, ils forment donc ces territoires. Et l'un de leurs grands centres de rassemblement, outre la Guadeloupe et diverses centres de chanoines hiéronymites qui se trouvent à Madrid et à Valladolid, qui en général s'appellent le Prado. Et on sait que c'est devenu par la suite tout autre chose que ces centres hiéronymites. Donc, ils s'installent à Yuste, où ils forment d'ailleurs un groupe très nombreux. Lorsque Charles Quint décide de se retirer complètement de la vie politique, tout au moins officiellement, car par les lettres, par les missions, par les ambassadeurs, par toutes sortes donc de consuls, il a gardé le joint avec l'ensemble de ses États. Il continue à s'en occuper, mais il s'installe donc à Yuste, et une cinquantaine de frères chanoines hiéronymites est venue en procession l'accueillir, pour vous montrer l'ampleur, là aussi, de ce centre de Yuste, où Charles Quint meurt en 1558, en juillet 1558. Voilà donc ces territoires où évoluent désormais, à quelques dates qu'il nous reste à donner, à marquer. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, mais cela va vite se terminer. Donc Ignace de Loyola, Ignace qui a une vie de pèlerin, d'abord d'esthète, d'abord de chevalier, d'abord de jeune homme de l'aristocratie, puis qui essaie cette vie de réflexion comme le veulent les hiéronymites, comme le voulait Cisneros, comme le veulent surtout tous les livres qu'il lit et qui viennent de ces milieux qui sont véritablement des modèles de Zwolle, de Deventer, de Groning, de Ruysbroek, etc., qui se trouvent dans les Pays-Bas et dans les marges allemandes. Et c'est ainsi qu'il groupe des fidèles à Paris, où il continue son enseignement de théologie dans les collèges, en particulier le collège de Sainte-Barbe, ou chez les dominicains du collège de Saint-Jacques, voilà, très important, et il demande enfin à Rome, où il est allé en pèlerinage, il demande en 1538 l'ordination sacerdotale. 1538, vous voyez qu'il se cherche depuis donc 1521, il a pris sa réflexion, il a groupé des fidèles, il a groupé des amis, François-Xavier, qui était à Paris avant lui, et prêtre avant lui, François-Xavier, et Pierre Favre, qui est un Savoyard, qui lui aussi est prêtre avant lui, mais en tout cas, lui-même donc saute le pas en 1538. Il est donc ordonné prêtre à Rome par le pape, et il célèbre sa première messe en 1538 à Rome, toujours sous la direction pontificale. Puis il revient de temps en temps à Loyola, où il fait quelques retraites de temps en temps. Il voyage à pied et en mendiant par austérité de vie, car il faut évidemment la pauvreté extérieure. Et avec son groupe d'amis qui forment une compagnie, d'abord la compagnie de Montmartre, puis la compagnie de Jésus. Il a été le chevalier de Dieu, il est adoubé par Dieu, la compagnie de Jésus. Donc, il forme cette compagnie de Jésus qui reçoit par une bulle pontificale donc de 1540, l'authentification pontificale et l'ouverture, selon les conseils et les écrits de d'Ignace de Loyola, toute la structure nécessaire. Ignace a écrit, tout au moins on a gardé de lui, 6800 lettres qui ont été des morceaux d'anthologie et qui ont été édités en 12 tomes à l'époque contemporaine. Il a écrit les exercices spirituels qui donnent toute sa spiritualité, sa réflexion personnelle, son libre accès à Dieu, sa volonté donc d'être l'enfant obéissant d'un modèle, mais qui est également son compagnon et qui le surveille de près, Dieu le Christ, Jésus. Et c'est ainsi qu'il rédige les constitutions qui forment la structure de cette nouvelle compagnie de jésuites, donc les jésuites, les frères de Jésus ou les jésuites, à partir de 1540. Très riches ensemble. Les jésuites ne sont pas toujours acceptés partout. Josette Ponté, qui est là, nous avait très bien parlé des réticences de Bayonne, parce que les jésuites, c'est Rome, c'est l'Italie. Ça n'est pas l'Église locale, exactement du moins. Il va falloir composer avec les uns et les autres et obéir à quelques ordres pontificaux, car on prête serment de chasteté, pauvreté, obéissance à la communauté, obéissance au supérieur qui est le procureur de la compagnie sur place, mais surtout aussi obéissance au pape. Si le pape veut créer une mission en Chine, il envoie un jésuite, il envoie des jésuites. Si le pape veut créer des missions en Amérique, qui sont donc découvertes à peu près de façon contemporaine par les Espagnols, les Portugais, les Italiens aux ordres de l'Espagne, etc., etc. Donc il faut passer aux ordres du pape. C'est ainsi que les réductions du Paraguay, cette exemplarité des réductions du Paraguay, sont créées au début du XVIIe siècle, avec des jésuites à leur tête, qui donc regroupent, en apprenant la langue sur place, donc les langues populaires, les langues du Paraguay. En leur donnant aussi l'espagnol officiel, si vous voulez, mais donc ce sont des jésuites espagnols. Et puis, en Asie, et là c'est la grande œuvre de François Xavier, qui part dès 1540, il est passé par le Portugal, le roi João III l'en a chargé, il a fondé une mission et un collège à Goa, en Inde, et puis très vite par les ports de la côte, en particulier donc par Madras, Malacca, etc. Il essaie de pénétrer en Chine. Il n'a jamais pu entrer à l'intérieur de la Chine, qui est véritablement fermée aux missionnaires jusqu'à une époque très récente, mais il a beaucoup mieux réussi au Japon. Pourtant, à son époque, le Japon dépend de la Chine. C'est le principal empereur de la Chine qui nomme le roi du Japon, enfin l'équivalent des titres de empereur et de roi, si vous voulez. Mais il apprend le japonais et il prêche très bien et peu à peu, en prenant la langue du peuple et la langue des officiels, il arrive donc à former des communautés et à appeler des frères jésuites qui l'aident dans le Japon. Mais il meurt en 1550, n'ayant pas pu entrer donc dans la Chine où il désirait tellement donc pénétrer. Ignace a formé, il faut enfin terminer avec cet autre très grand personnage, François Borgia. Les Borgia sont originaires depuis très longtemps, depuis au moins le XIVe siècle, de Borja, qui est en Aragon, qui est à mi-chemin entre Tudela en Navarre et Saragosse en Aragon. Et les seigneurs de Borja essaiment le long des diverses régions aragonaises, dans les territoires de la Méditerranée, en Italie. C'est ainsi que l'un des héritiers de la famille, c'est une famille particulière où en général tous les enfants sont illégitimes, ou beaucoup d'enfants sont illégitimes, mais l'un des très légitimes, fils d'un Jean Borgia, et Francisco. Francisco entre dans le clergé aux côtés de Ignace de Loyola, et c'est en 1548 qu'il célèbre sa première messe dans la chapelle du château de Loyola, servie par François, par Inigo, donc de Loyola en personne, qui a aidé François Borgia. François Borgia, qui avait été laïc, marié, père de famille, duc de Gandia, qui se trouve sur la côte méditerranéenne du royaume de Valence, c'est sur le cap de la Nao, au nord, sur la côte septentrionale du cap de la Nao. Duc de Gandia, il a tout laissé à d'autres hommes de la famille pour entrer dans le clergé et se faire jésuite avec les autres. 1558, très fatigué, très malade, Ignace de Loyola meurt à Rome. On avait fondé des collèges et des églises, et le pape Paul III, qui était Alexandre Farnèse, avait toujours aidé l'arrivée de ces jésuites. C'est lui qui, en 1540, a authentifié la Compagnie de Jésus. Donc, le pape Paul III avait aidé la famille Farnèse, il était lui-même à Farnèse, et c'est ainsi qu'un autre cardinal Farnèse a fondé en 1560 l'église de Jésus, qui est l'une des églises la plus typiquement contre-réformatrice de la ville de Rome, et qui est à la gloire de Dieu pour tous les millimètres de cette église du Jésus, et c'est là qu'est enterré Ignace de Loyola, et il était mort donc dans ce territoire. Voilà la carrière, j'ai parlé une heure et demie, excusez-moi, la carrière qui demande peut-être quelques mots ou quelques illustrations musicales, voilà.
Chère madame,
je vous remercie pour votre assistance tout à fait irréprochable. Donc, je vous remercie.
Chère madame.
Ignacio de Loyola ou la naissance d'une vocation de paix. Vous venez de suivre la seconde partie d'une conférence de Béatrice Leroy enregistrée le 30 novembre 2022 en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.